Chapitre 24 La justice. Ce ne fut que 18 jours après son arrestation que Francis Drake, un matin, fut extrait de sa cellule et amené devant la cour martiale, devant le juge. Le terrible tribunal siégeait dans une petite salle dont les murs badigeonnés de jaune étaient ornés d'un mauvais tableau représentant le tsar. Au fond, derrière une longue table recouverte d'un tapis élimé et poussiéreux, se tenaient les juges militaires, trois en tout, et que présidait le colonel Bilbatchev. Mais Drake ne vit rien de tout cela, car son premier regard, en entrant dans la salle, tomba sur Margaret. Margaret, vêtue d'une grossière robe de bure marron, les mains réunies devant elle par les menottes de fil de fer. Qui eût reconnu la belle jeune fille que les journaux américains se faisaient à proclamer la plus belle de l'Union? Margaret n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Ses yeux bleus, enfoncés maintenant au fond des orbites, avaient perdu leur brillant. La peau s'était jaunie et tirée. Une expression de morne désespoir se lisait sur son visage. Et ses cheveux blonds, tirés et ramenés sous un mauvais bonnet de toile grise, ajoutait encore à la tristesse de sa physionomie. Francis Drake, hagard, s'était arrêté de marcher. Il contemplait sa fille. Un coup de crosse qu'il reçut dans les reins le ramena au sentiment de sa propre situation et du respect qu'il devait à la justice de sa très gracieuse majesté, le tsar de toutes les Russies. Comme un automate, il se remit en marche et alla s'asseoir sur le banc de bois où était déjà installée Margaret. « Ma pauvre enfant, murmura-t-il en se penchant vers elle, ne vous affligez pas, mon père, j'ai du courage, nous surmonterons. »« Silence !» souffla un des Cosaques, flanquant les prisonniers. Il se fut dit avec un accent si sauvage que le père et la fille se turent. Les débats furent brefs. L'acte d'accusation fut lu en russe et ensuite traduit en anglais par un officier interprète. Le colonel Bilbatchev, qui parlait anglais, procéda lui-même à l'interrogatoire des accusés. Francis Drake et sa fille essayèrent encore une fois de rétablir la vérité. Ils purent consulter en voyant le visage des officiers russes, tandis que l'interprète traduisait leurs réponses, que leurs efforts étaient vains. Les Russes étaient convaincus de leur culpabilité. L'on passa à l'audition des témoins. Stein et les deux marins de l'Adler se présentèrent d'abord. Stein, qui déclara se nommer John Stevenson, capitaine du yacht anglais Alice en mission d'hydrographie, raconta qu'ayant entendu un cri sur le pont, il était sorti de sa cabine et avait vu le canot qui aurait dû être attaché à l'échelle, s'éloigner du yacht. Comme, assura-t-il, il avait donné des ordres pour que personne ne descendît à terre cette nuit-là, il cria au canot de revenir. Ne recevant pas de réponse, il tira en l'air de son revolver pour appeler les marins. Et ayant couru vers la coupée, il avait retrouvé au haut de l'échelle la tête cassée et le matelot de faction. C'était lui sans doute qui avait crié avant de mourir. Comme la Lys ne possédait pas d'autre embarcation que le canot, lui, John Stevenson, n'avait pas pu poursuivre les fugitifs, mais il avait été bien heureux d'apprendre qu'ils avaient été capturés par la vaillante police russe. Des murmures d'approbation saluèrent ses paroles. Il vit ensuite autour des deux marins de l'Adler qui, leur leçon bien apprise, corroborèrent les paroles de leur chef. Ils avaient transporté dans l'infirmerie le corps inerte de leur infortuné camarade. Et l'un d'eux ajouta, ce qui fit une grande impression sur les officiers russes, que plusieurs fois, pendant la journée, et au tombé de la nuit, il avait vu une sorte de sampan tourner autour du yacht. Il avait d'autant plus remarqué l'embarcation qu'un homme se trouvait dedans, et qui ne cessait d'observer la Lys avec des jumelles. Or, il est rare de voir le misérable Kalmouk ou Chinois posséder des jumelles. Sans doute, c'était ce sampan qui avait conduit les inculpés à bord du yacht et leur avait permis de voler le canot. Vint ensuite le docteur James Mackenzie de l'université de Cambridge, propriétaire de la lisse. Chrysler s'exprima d'une manière très mesurée. Il regarda à peine ses victimes, et ce fut d'un air de profonde commisération. Il déclara qu'il avait été réveillé par les coups de feu, mais que quand il était arrivé sur le pont, tout était fini. Cependant, il avait pu assister au magnifique effort du canot de la police pour attraper les fugitifs, et il était heureux de témoigner ici son admiration pour la vaillance des nobles soldats russes. « S'il m'est permis de le faire, conclut-il, je vous demande de l'indulgence, messieurs, pour ces malheureux fous. Pour ma part, je leur pardonne de grand cœur le mal qu'ils m'ont pu faire. Je déplore seulement qu'ils aient tué un de mes braves matelots, rendant ainsi orphelins les trois petits-enfants de ce pauvre homme. Je mentionnerai le nom de ce brave dans mon rapport à Sa Majesté l'Empereur, monsieur le docteur, affirma le colonel Birbatchev. Soyez sans crainte, le gouverneur russe n'oubliera pas les orphelins. » Le docteur James Mackenzie s'inclina et sortit sans même avoir regardé ses victimes. Avec une suprême habileté, il avait dédaigné de faire allusion aux accusations pesant sur les inculpés. Il savait trop bien que c'était inutile. La dernière déposition, la plus accablante, fut celle du lieutenant second Karmoulov, un vieux sous-officier parvenu à l'épaulette après une trentaine de service. C'était un petit homme chafouin, le menton recouvert d'une courte barbe grise bouclée. Sa face tannée, coupe rosée, portait visible les stigmates de l'ivrognerie la plus complète et la plus invétérée. C'était lui qui commandait le canot qui avait poursuivi et capturé les fugitifs. Il raconta comment il avait rejoint les nihilistes et avait dû engager avec eux une lutte formidable. Il avait eu juste le temps d'arracher des mains de l'homme une grosse bombe que celui-ci s'apprêtait à lancer sur son bateau. Quant à la femme, ou une vraie diablesse, elle s'était défendue avec sauvagerie et avait essayé de tuer un de ses subordonnés à l'aide d'un poignard. On l'avait désarmé avec peine. Le colonel Birbatchev, comme il se devait, félicita Karmoulov de sa vaillance et de son sang-froid et lui annonça qu'il avait proposé pour la croix de Saint-Georges. C'en était fait. Drake et sa fille, invités une dernière fois à avouer leur crime, se turent. Qu'auraient-ils pu dire? Quelques minutes plus tard, la cour, après une brève délibération, rendit sa sentence. Le sans-nom, prétendant se nommer Francis Drake, était condamné au bagne jusqu'au restant de ses jours. La sans-nom, se disant Margaret Drake, sa complice, irait au pénitencier pendant 20 ans. Le père et la fille ne furent pas étonnés lorsqu'on leur annonça leur sentence. Ils s'attendaient à tout. Ils se regardèrent, chacun retenant ses larmes pour ne pas augmenter la peine de l'autre. Les liens les entravant les empêchaient même de s'embrasser. « Aie du courage, Margaret, il se peut que notre innocence ne soit pas reconnue un jour. »« C'est pas possible, notre tour viendra, » murmura le financier d'une voix qui malgré tout tremblait un peu. La jeune fille ne put répondre, déjà les Cosaques l'entraînaient. Francis Drake et Margaret furent séparés. Ils ne devaient plus se retrouver que dans le lugubre cortège du bagne. L'Américain, ramené dans sa cellule, y eut la tête rasée par un prisonnier kalmouk. Il dut s'asseoir sur la dalle, placer sa tête entre les genoux de la brute qui la lui gratta à l'aide d'un mauvais couteau. On lui vit ensuite revêtir l'uniforme des condamnés en bure grossière, pelée et rapiécée. Un gardien, qui savait quelques mots d'anglais, il fit comprendre qu'il partirait prochainement pour le bagne, avec le convoi de déportés qui allait arriver de Sibérie. Le deuxième jour, qui suivit sa condamnation, Drake vit la porte de son cachot s'ouvrir sur une figure de connaissance, Chrysler. Il s'attendait presque à cette visite. Le bandit, douillettement emmitouflé dans une pelisse de gibeline, avait toujours son bras en bandoulière. Il entra sans hâte et le geôlier respectueusement referma la porte sur lui. Oui, c'est moi, Drake, commença Dessler à mi-voix. J'ai l'autorisation du colonel. Je lui ai dit qu'à mon opinion, vous étiez vraiment un Anglais ou un Américain, acheté sans doute par les nihilistes. Je lui ai dit aussi que je m'intéressais à votre sort, ce qui est la vérité, n'est-ce pas? Je lui ai fait espérer que peut-être je parviendrais à vous faire avouer le nom de vos complices, en vous promettant de vous faire obtenir une réduction de peine. Drake, toute cette comédie me répugne autant qu'à vous. Croyez-le ou non, je ne suis pas un méchant homme, moi. J'emploie les moyens que les circonstances placent à ma disposition. Vous voyez où vous en êtes. Vous allez partir pour le bagne. Et les bagnes de Sakhaline sont plus terribles que ceux de Sibérie. Il n'existe pas d'exemple qu'un forçat y dure plus de 5 ans. Et il s'agit des plus solides. Oh, vous êtes sur les limites de la vieillesse. Il y a Miss Drake, elle va être placée parmi le rebut de l'humanité, parmi les empoisonneuses, les femmes assassins, les voleuses, parmi tout ce qu'il y a de plus ignoble sur cette terre. Y avez-vous songé, Drake? Son âme, tout ce qu'il y a de bon et de beau en elle, périra lentement. En quelques mois, ce sera une infâme femelle comme ses compagnes. Et peut-être qu'auparavant, de perdre la dernière étincelle de raison, pensera-t-elle que vous avez eu tort de l'écouter, que vous avez eu tort de ne pas vous arranger avec moi. Dans 5 jours arrive le convoi de déportés qui vient de Nikolaïevsk. Vous serez joints à eux, vous et votre fille. Vous partirez pour l'intérieur de Sakhaline, vers le bagne d'où l'on ne revient jamais. Or, l'Adler est réparé, il est prêt à reprendre la mer. Il n'y a aucun navire dans le port pouvant lui donner la chasse. Si vous me signez le papier que j'ai apporté, dans 48 heures vous serez de nouveau à bord de mon navire, libre. Gressler s'arrêta. Francis Drake le regardait avec une telle expression de mépris sauvage qu'il comprit soudain que ses efforts étaient vains. Son ennemi non seulement ne le croyait pas, mais encore en était arrivé à cet excès de haine qui submerge tout autre sentiment. Vous m'écoutez, Drake? Demanda-t-il d'une voix moins sûre d'elle-même. Oui, mais je préfère le bagne, je préfère ma mort et celle de ma fille à votre aide. Notre consolation sera de savoir que votre infamie ne vous aura rien rapporté. Ne perdez pas votre temps davantage. Ce disant, Francis Drake, s'étant étendu sur la dalle, se retourna contre la muraille. Gressler le regarda longuement, la bouche sèche. C'était sa dernière carte qu'il venait de jouer, et la partie était perdue. Oui, dans 6 mois, dans 1 an, il reviendrait. Mais il n'avait plus d'espoir. Si Drake avait refusé maintenant de souscrire à ses exigences, malgré sa condamnation, malgré l'horrible sort attendant sa fille, il refuserait aussi plus tard. Et lui, Chrysler, serait à peu près ruiné, car l'aventure lui coûtait cher, et depuis des mois, il négligeait ses affaires. Il appela tout son calme à lui. Croyez-moi, Drake, vous vous repentirez de ne pas m'avoir écouté, reprit-il. Vous ne vous doutez pas des souffrances qui vous attendent. Il y a le Knut, et on Knut aussi les femmes, Drake. Nulle réponse n'honora cette dernière infamie. Gressler, après avoir attendu en vain une longue minute, n'insista plus. Je m'en vais vous recommander à la police russe, Drake, jeta-t-il les dents serrées. Et votre fille aussi. Elle sera soignée, je vous en réponds. Il marcha vers la porte contre laquelle il cogna 3 fois, le battant s'ouvrit aussitôt. Il sortit. Francis Drake n'avait pas bougé. Malgré l'excès du malheur, son énergie, cette énergie qui avait fait de lui un des plus riches hommes d'affaires de l'Amérique, ne l'avait pas abandonné. Il se relèverait, il s'évaderait du bagne. D'autres l'avaient fait avant lui. Et il délivrerait Margaret si elle vivait encore. La pensée de sa fille était sa seule faiblesse. L'idée que son enfant souffrait, les tortures qui l'attendaient, lui étaient insupportables. Il réagit, domina sa faiblesse. Plus que jamais, il devait être fort s'il voulait sauver sa fille et se venger. Mais sa haine de Chrysler était aussi forte que son affection pour Margaret, sans borne. Mais que faire pour l'instant, sinon attendre? Tant qu'il serait dans cette prison, il ne pourrait rien. Il n'eut pas longtemps, heureusement, à s'impatienter. 4 jours après son jugement, deux Cosaques vinrent le prendre dans sa cellule et le poussèrent dans la cour de la prison, où déjà était rassemblée une foule de misérables. Le convoi de déportés arrivé par le bateau de Nikolaïevsk et qui attendait là son départ pour l'enfer du bagne.